Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le temps. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger. M'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, nous sommes en retard et mille excuses à nos chers auditeurs. L'inconvénient du direct, c'est que quand vous avez des problèmes dans les transports en commun, vous arrivez en retard à notre station de radio chérie. Alors, aujourd'hui, le groupe Louise Michel sur Radio Libertaire est ravi de recevoir une grande dame de... du journalisme, Pauline Perrenot. Pauline, bonjour.
Bonjour.
Pauline, tu es à Acrimed, Action Critique Média, et tu as sorti un livre qui s'appelle « Les médias contre la gauche », publié chez Agone et qui coûte 15 euros. Alors, Pauline, pourquoi « Les médias contre la gauche » et pourquoi Acrimed d'abord?
Alors, je présente Acrimed, c'est ça?
Oui, s'il te plaît, Pauline.
Oui, parce que j'y viendrai après, mais c'est important d'y insister dès le départ. C'est vraiment, ce bouquin est vraiment un travail collectif de l'association, puisqu'il s'appuie sur beaucoup d'articles qu'on a écrits sur notamment les cinq dernières années. Mais pour dire quelques mots sur Acrimed, c'est une association de critique des médias qui existe depuis 1996, hein, qui s'est créée dans la foulée du mouvement social de 95, dans le mouvement social même de 95, puisque l'association se donnait pour but déjà de réagir et de critiquer le traitement désastreux qui était fait déjà à l'époque des grèves, des manifestants et de la mobilisation sociale. Et donc depuis, on continue un travail de critique radicale de l'ordre médiatique, des médias dominants, donc qui se décline un peu trois axes, si vous voulez. C'est d'abord essayer d'informer un peu sur la manière dont se structure le système médiatique, informer également sur les pratiques des journalistes, comment ils travaillent, évidemment comment ça se structure, c'est comment s'organise le paysage, qu'est-ce que ça peut expliquer sur la production de l'information, etc. Un deuxième axe, c'est de produire des articles régulièrement, notamment sur le site d'Acrimed, où tout est en accès libre, des articles qui traitent en fait de ce dont parlent les médias et donc qui critiquent les biais qui existent dans le traitement de l'actualité et qui conduisent, selon nous, à fabriquer de la malinformation, quoi. Pour le dire vite. Et puis un troisième axe important de l'association, c'est évidemment de pas s'en tenir à la critique, au constat, etc., mais c'est aussi de formuler un certain nombre de propositions qui visent à radicalement transformer en fait les médias pour que on prône une réappropriation démocratique des médias. Et donc il y a un certain nombre de mesures à prendre, comme sur sur d'autres sujets. Et donc, la revendication, voilà, c'est de refaire des médias une question politique à part entière, et donc de proposer des choses pour que le paysage s'organise mieux et qu'on soit mieux informé, ce qui est quand même un droit fondamental.
Alors, on va y revenir, Pauline. D'abord, on va rappeler l'adresse du site internet, c'est acrimed.org, et le journal d'Acrimed, qui est Média Critique, qui va sortir ces jours-ci, le numéro 47.
C'est ça.
Voilà, sur le journalisme de cour et de préfecture.
Oui, alors c'est voilà, il y a un peu de, il y a certains articles sur le moins journalisme de cour que de, on a notamment mis un article qu'on avait fait sur Bernard Cazeneuve, bon, qui est vraiment quelque chose tout à fait en rapport avec le sujet du bouquin par ailleurs. Mm-hmm. Voilà, la sélection. Et la mise en avant, la mise sur le devant de la scène par les chefferies éditoriales d'un personnage de la gauche. Alors, je mets mille guillemets.
Ah oui, Cazeneuve, oui.
Voilà, dans la tête des chefferies éditoriales, voilà, c'est la gauche, entre guillemets, qu'ils aimeraient voir, une gauche de droite, quoi, en gros. Mm. Mais c'est intéressant de voir comment, justement, quand on pense à la manière dont les médias, évidemment, ne sélectionnent pas les représentants politiques, mais ils peuvent mettre en avant ceux qui leur conviennent, ils peuvent ou non leur prêter des signes de déférence, ils peuvent ou non faciliter leur expression, ils peuvent ou non prêter du crédit à leurs propos. Et là, on voit que dans ce champ, dans ce secteur-là du champ politique, Bernard Cazeneuve convient très bien au chef éditorial, et donc il y a eu toute une séquence très intéressante du point de vue de l'analyse des médias, où on a pu assister à sa mise sur le devant de la scène, et puis qui s'accompagnait de discours tout à fait louangeurs. Alors d'abord, dans un premier temps, sur l'écrivain, entre guillemets, puisqu'il a publié un ouvrage, et ensuite, évidemment, sur ses positions politiques. L'une d'entre elles, qui est particulièrement appréciée des éditocrates et de à peu près l'ensemble des commentateurs du paysage audiovisuel, mais pas que, puisque la presse a mis toute son énergie à la promotion dans la promotion de Bernard Cazeneuve. Une des positions préférées, c'est évidemment le pilonnage incessant de Bernard Cazeneuve contre la NUPES et contre les orientations qu'elle entend porter. Voilà.
Voilà. Alors, le pilonnage contre la NUPES, on va y revenir. Ça, ouais. C'est un des chapitres de l'excellent ouvrage, Les médias contre la gauche. Mais tu reviens vous revenez tous dans l'introduction pour rappeler que depuis mars 83, donc il y a 40 ans plus tôt, le tournant de la rigueur, c'est Mitterrand, donc pour la première fois, la gauche abandonne le programme pour lequel elle a été élue. Et ça ne va pas arrêter jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle va avoir un discours néolibéral. Elle va endosser les habits du néolibéralisme. Et il y a la fameuse émission Vive la crise de 1984, qui est restée dans les mémoires comme étant un florilège, avec Yves Montand en plus comme présentateur vedette, qui est un florilège du retournement de veste de la gauche, entre parenthèses, entre mille guillemets, comme on dit.
Oui, alors c'est vraiment, on refait pas tout l'historique, mais non. Évidemment l'introduction repartait de ce moment, parce que ça a été aussi le moment où un certain nombre de grands quotidiens nationaux ont accompagné en fait ce tournant néolibéral du Parti socialiste. Et ce qu'on explique, c'est que ça n'a jamais cessé depuis. Alors on peut nuancer là justement avec la NUPES qui entendait rompre avec un certain nombre de dogmes néolibéraux. On voit que Libération, par exemple, a quand même un peu nuancé son discours, etc. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est sûr que le tournant néolibéral a été avec zèle et très largement accompagné par l'ensemble des grands médias. Donc là, c'est évidemment c'est on parle là à la fois d'information, enfin du journalisme politique, mais aussi de l'information économique, surtout. Et ce qu'on voit, voilà, c'est que ça n'a jamais cessé depuis. Donc c'était important pour nous de revenir sur ce moment un peu emblématique. Quand on parle d'ostracisation, ou en tout cas de marginalisation de la gauche, et puis surtout des idées en rupture avec ces dogmes libéraux, néolibéraux qu'elle peut porter, quoi.
Alors, vous dites la gauche de la gauche a été doublement perdante avec ce process, et surtout les médias ne sont pas indépendants ni autonomes, ils servent de faire valoir, ils sont un relais influence de leurs propriétaires. Alors, qui sont les propriétaires des médias? Ça, c'est important. Parce que Médiacritique, chaque année, publie la liste, une cartographie mise à jour des propriétaires des médias en France et en Europe. C'est prodigieux. Donc, 10 oligarques possèdent 90% de la presse écrite.
Alors oui, c'est une carte qu'on a créée, co-créée en fait avec le monde diplomatique, et qu'effectivement on réactualise au fur et à mesure des mercatos, j'allais dire, puisque évidemment les propriétaires vendent, les actionnaires rachètent, etc. Enfin, tout le paysage est assez mouvant, mais en l'occurrence un trait structurant de ce paysage, c'est évidemment sa concentration. Tu l'as dit, entre les mains d'une poignée d'industriels milliardaires qui ont des noms, des visages, c'est Bolloré, c'est Drahi, c'est Niel, Dassault,
Kretinsky,
nouveau venu, oui, il commence à plus tellement être nouveau, mais en tout cas, pareil, il grignote du terrain. Bolloré, n'en parlons pas, il y a quand même une petite actualité encore autour de lui.
Oui.
Donc voilà, évidemment, l'idée. Acrimède n'a jamais dit que évidemment les journalistes que les actionnaires tenaient le stylo de chaque journaliste pour les aider à écrire leur papier. Ça n'aurait absolument pas de sens de dire cela. Simplement passer outre ce mode de propriété capitaliste des médias, et évidemment que ça a des influences sur la production de l'information, puisque ce sont quand même des gens qui cherchent, même si les médias sont pas tellement profitables, mais en tout cas le système est financiarisé, donc ce sont des actionnaires qui cherchent la rentabilité sur le dos par ailleurs de modèles complètement low cost de production de l'information. Quand ils rachètent des titres ou des médias, ça peut, et généralement ça accompagne de saignées budgétaires et humaines dans les rédactions, etc. Évidemment que ça a une influence. Et puis après, être à la tête d'un média, c'est aussi la garantie de ne pas voir les journalistes enquêter sur les affaires de ces industriels. Bon, il y a 1000 exemples, mais évidemment qu'ils ne le font pas pour rien. Et les médias servent de... leur servent en tout cas, ou ils les pensent comme pouvant être des leviers d'influence aussi sur le champ politique. Voilà, puisqu'ils veulent, ils entendent peser là-dedans, et puis parce que ils ont des intérêts ailleurs que dans la presse. Ils dirigent, ils officient quand même, et ils tirent d'ailleurs leurs revenus dans d'autres secteurs d'activité que sont les télécoms, les BTP, l'armement, etc., etc., etc. C'est un modèle économique, ou en tout cas un mode d'organisation économique de l'information qui, d'une part, ne va pas du tout de soi, mais qui en plus qu'il faudrait vraiment transformer, parce que ça, c'est vrai que ça a beaucoup d'influence assez néfaste. Je pense tout de suite là à une enquête très bonne qui a été faite, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, mais dont les premiers volets sont parus sur le site Blast.
Sur Drahi.
Alors sur Drahi, et puis il y en a eu une autre qui est un groupe qui passe beaucoup plus sous les radars, même si bon, on ne parle pas beaucoup de la question médiatique en général, à part de Bolloré. mais un groupe médiatique qui est le groupe Ebra. Mmh. Donc là, c'est plus la presse quotidienne régionale, mais c'est un groupe...
L'Est de la France.
L'Est de la France, voilà. Il y a, je crois, il y a 9 titres au moins. Je crois qu'il couvre à peu près 27 départements. C'est un groupe qui appartient au Crédit Mutuel. Mmh. Donc là, on n'est plus dans l'armement ni le BTP, mais on est dans la banque. Ouais. Voilà, c'est aussi intéressant. Et donc l'enquête de Blast en plusieurs volets repart un peu du plan de restructuration entre guillemets qui a été mis en place par le nouveau patron en 2018, et donc il détaille vraiment avec moult détails toutes les conséquences que ça a pu avoir, la recherche, la quête de la rentabilité sur la production de l'information, sur le travail des journalistes complètement précarisés, sur la course au buzz, etc., sur les copier-coller de communiqués de toutes sortes, mais en tout cas d'institutions, etc., etc. Enfin, c'est très détaillé et c'est un très bon exemple des impacts
En fait, en gros, si on résume ton propos, c'est dans un sous-chapitre du journalisme de classe, le grand patronat de poids rédacteur en chef du PAF. Voilà, comme ça, c'est dit.
Oui, alors ça, bon, c'est... C'est une des influences, bah, quand tu disais les médias sont les relais d'influence des idées de leurs propriétaires, c'est vrai que sociologiquement, les chefferies éditoriales, en fait, elles sont sociologiquement solidaires, en fait, des intérêts de leurs propriétaires. En fait, c'est des gens qui partagent globalement une même vision du monde,
qui vont en vacances ensemble.
Pour certains, en tout cas, voilà, ouais. C'est... Mais globalement, c'est vraiment un marqueur très fort de classe. Et donc, évidemment, il y a une porosité. Dans ce sous-chapitre, le patronat rédacteur en chef du PAF, c'est une formule un peu provocante, mais en réalité qui décrit assez bien ce qui peut se passer en termes de porosité, justement, entre la bourgeoisie économique et les directions éditoriales. Et donc, il y a moult... déclinaison, exemple de cette porosité entre le patronat, ses politiques, ses visions du monde, encore une fois, et l'information qui est produite. On donne quelques exemples, mais par exemple, pendant la campagne présidentielle, sur BFM TV, sur BFM Business en l'occurrence, mais qui reste une chaîne du même groupe, le MEDEF peut tout à fait, en pleine campagne présidentielle, décider de co-animer une émission en interrogeant en fait des candidats et en faisant interroger des candidats par des patrons d'entreprise. Ça ne choque absolument personne.
Ah, mais là, vous êtes genre incroyable.
Enfin, c'est voilà, c'est, et donc ça, c'est quand même une collaboration qui est décidée avec la direction de la chaîne et la direction du groupe en l'occurrence. Et personne ne trouve qu'il y a le moindre problème éditorial, visiblement, même si c'est, on ironise aussi dans le livre par rapport à ça, mais évidemment, oui. Un exemple similaire avec une émission similaire ou un pendant avec la CGT, par exemple,
oui.
n'a pas été imaginé.
Non, jamais. Ça, on n'a jamais vu ça. Donc, contre, on peut faire la déclinaison d'un débat, c'est la réforme des retraites dans les médias. Ça, si tu as 5 minutes pour revenir là-dessus, ça a été, mais vraiment, le carnage.
Alors, oui, et un peu moins que d'habitude, pour avoir regardé... Non, mais un peu moins, je vais pas commencer à encenser le traitement médiatique. Loin de là, on a trop publié, et surtout on a consacré un numéro de médias critiques entièrement à ce sujet. Donc voilà, mais c'était intéressant quand même de remarquer que certains éditorialistes... À un certain moment, après les grandes mobilisations, en fait, à partir du 19 janvier, et puis après, le 31, quand des millions de gens étaient toujours dans la rue, remarquez qu'ils ont quand même, pour certains, un peu baissé d'un ton. Et c'est important de le relever, parce que ça veut dire aussi que le mouvement social, il peut peser, en fait, dans le rapport de force, y compris sur le traitement médiatique. Ça montre que, voilà, ils sont pas non plus totalement étanches branche à ce qui peut se passer dans la société. Et ils ont aussi des intérêts boutiquiers. Je pense aux chaînes d'information en continu, par exemple, où ça a été, à certains moments, beaucoup moins caricatural que sur la précédente mobilisation des retraites, contre la précédente réforme des retraites, par exemple. Un intérêt boutiquier, tout simplement, parce que...
Et sur place, le terrain, il se faisait insulter.
Oui, mais aussi compte tenu de leur grande dépendance et de la croyance aveugle qui voue aussi au sondage d'opinion, le fait de semaine après semaine voir arriver les livraisons de sondages qui leur indiquaient que 90% de la population, enfin des actifs en tout cas, étaient opposés à la réforme, ils se sont dit on va pas non plus, pour le dire un peu vulgairement, on va pas non plus pilonner les opposants à longueur d'antenne, parce que c'est aussi notre public, quoi. Donc c'est vrai que un des terrains d'observation un peu favoris d'Acrimed, que sont les interviews de syndicalistes qui sont généralement en temps de mobilisation sociale des interrogatoires. Évidemment qu'il y en a eu, dont un mémorable par Sonia Mabrouk qu'on avait détaillé sur le site d'Acrimed, interrogatoire contre Marine Tondelier, donc la responsable écologiste, mais c'est vrai que c'était moins systématique. Après, ceci étant dit, on peut reprendre depuis le début, en fait, parce que évidemment que le traitement médiatique de la réforme n'a pas commencé le 19 janvier, premier jour de grande grève et de grandes manifestations. En fait, ça a commencé dès le mois de décembre, même avant, en réalité, où on entendait certains éditorialistes, chroniqueurs commenter par avance la réforme. Mais grosso modo, si on prend la période 1er janvier, 19 janvier, ça a été là, effectivement, tout à fait caricatural. Donc on a eu la mobilisation traditionnelle de l'éditocratie qui réunit évidemment à vanter la réforme, nous a expliqué qu'elle était indispensable, qu'on ne pouvait pas faire autrement, il n'y a pas d'alternative, le fameux slogan qui était rabâché, c'est-à-dire que là pour le coup à chaque fois que... un opposant politique, en l'occurrence de gauche, voulait sur les plateaux parler d'alternatives, d'une réforme, d'une retraite à 60 ans, etc. Là, c'était immédiatement écarté, qualifié et étiqueté de non-sujet, alors qu'évidemment, on était pourtant en plein dedans. Donc voilà, il y a eu une mobilisation traditionnelle, on va dire, et également un journalisme classique, on va dire, de démobilisation sociale, c'est-à-dire que là, ça a été plutôt le défilé, alors dans les grandes matinales, dans les espaces de l'information très suivis, mais le défilé des sondologues, etc., qui nous ont expliqué que la France était apathique, que les Français étaient fatalistes, etc., etc., qu'il n'y aurait personne dans la rue. Donc voilà, ce journalisme de bavardage, de commentaires permanents, qui permet... entre virgules, de souligner que les médias sont pas aussi puissants qu'on veut parfois le prétendre, parce que si on avait écouté à peu près les deux semaines de discours au cours desquels on nous a rabâché sur à peu près toutes les antennes de France Info à BFM, en passant par des interviews de Jérôme Fourquet dans la presse, que les Français étaient fatalistes et résignés, il y aurait pas eu 1 million de personnes 10 jours après, ou le lendemain dans la rue, quoi. Donc voilà, ça a été, c'est plutôt les travers assez classiques, on va dire, qu'on a pu retrouver à ce moment-là. Une façon aussi qu'avaient les journalistes les plus en vue, les commentateurs les plus en vue, ceux qui disposent de plus de pouvoir, cette manière qu'ils avaient de complètement télégraphier en fait la communication gouvernementale. C'est vrai qu'il y a eu un petit scandale au moment où on a appris que 10 éditorialistes avaient déjeuné avec Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on disait en rigolant un peu, c'est que là non plus Emmanuel Macron leur avait pas tellement tenu le stylo, parce que les 10 en l'occurrence qui étaient présents étaient déjà tout à fait convaincus de la nécessité entre guillemets de la réforme. Donc ouais. Voilà, ils n'avaient pas eu besoin que Macron leur souffle ces éléments de langage pour vanter la réforme dans les colonnes de leurs journaux. Je pense notamment à Françoise Fressaude, grande éditorialiste de référence s'il en est, et qui officie au journal Le Monde.
Voilà. Alors, pour en revenir à Emmanuel Macron, vous dites des choses très justes sur son élection. On va revenir sur la marginalisation politique, cette fois-ci, de certains candidats. Vous dites « Les médias jouent un rôle actif dans l'histoire de la droitisation du débat public. » Alors, et surtout, si les médias n'ont pas plus qu'auparavant fait l'élection, ils ont imposé Emmanuel Macron.
Alors voilà, c'est important de dire que les médias ne font pas l'élection, mais de tout de suite ajouter qu'ils pèsent par tout un tas de mécanismes sur l'ensemble en fait du processus électoral. Et donc Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on repart, c'est la porte d'entrée du livre, on repart sur l'élection de 2017, parce que c'est un exemple exemplaire, on va dire, de la manière dont ils ont vraiment mis sur le devant de la scène un candidat, construit sa stature publique, etc., etc. Donc on revient sur tout le processus, on redonne énormément d'exemples en fait et d'étapes de battages médiatiques réguliers à chaque fois qui levaient un petit doigt. Donc il y a eu évidemment, ça a commencé bien avant 2017 en fait, ça a commencé dès sa démission en fait du poste de ministre de l'économie. Voilà, et après, voilà, donc là, on revient sur les étapes de ce grand spectacle et de la capacité des médias à construire une personnalité publique, à produire un nombre incalculable d'articles
sur
des non-événements, mais qui, en l'occurrence, pour les journalistes qui le faisaient, étaient construites comme des actualités à part entière. Donc ça, quand on parle des pouvoirs des médias, c'est important de le rappeler. C'est vrai qu'on le dit en introduction, ils ne choisissent pas l'actualité, ils ne font pas l'actualité, mais ils portent leur regard ici ou là, ils hiérarchisent évidemment les informations qui leur parviennent, ils décident de traiter certaines, comme on l'a vu avec le moindre déplacement de Macron, comme un événement et d'autres comme des non-événements qui n'auront jamais vocation à percer le mur médiatique. Et évidemment, ils décident aussi de comment les traiter, de leur donner plus ou moins d'ampleur et d'importance, y compris dans l'environnement éditorial, c'est-à-dire y a des informations qui font la une et il y en a d'autres qui resteront à jamais de simples brèves de trois lignes quoi, ou de petits sujets de une minute. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut comprendre, comment ça se structure. Et Emmanuel Macron, voilà, c'est ça a été, on dit dans le livre, le sacrifice du pluralisme sur l'autel du végétariat et vraiment un très bon exemple de
le journaliste contre le storytelling.
Après son élection, évidemment, il y a eu des kilomètres de papier et des heures d'antennes qui ne se contentaient que de télégraphier la communication, de construire son image, de la com. Et en fait, un des traits, c'est évidemment pas nouveau, mais disons que la confusion de l'information avec la communication est quand même un des traits qui se matérialise dans ce journalisme de commentaires dont on parlait un peu, mais un des traits les plus structurants, en gros, du débat public aujourd'hui. Pour donner un exemple, on repartait de l'émission Les Informés, qui est une émission sur France Info, qui initialement était diffusée le soir, mais qui à présent, y compris, est diffusée le matin. Enfin, une version matinale des Informés existe depuis au moins cette année, si ce n'est deux ans. Et dans cette émission, c'est un défilé de commentateurs dont on sait absolument pas d'où ils sortent, qui travaillent pour des entreprises privées et des boîtes de com, et qui sont sélectionnés, adoubés, et en l'occurrence invités pour commenter des sujets d'actualité au même titre que des journalistes qui sont et des grands reporters qui sont la deuxième catégorie des invités les plus représentés dans cette émission. Donc voilà, on commente la communication, c'est ça le trait le plus structurant du journalisme politique tel qu'il se pratique aujourd'hui et tel qu'il se décline, on va dire, dans tout un tas de de formats différents, que ce soit des sujets de JT, que ce soit les éditos, n'en parlons même pas, que ce soit les émissions de pseudo-débats qui n'en sont pas, que ce soit etc, etc.
Bien. Alors, on va faire une pause et on va revenir sur ce que vous avez expliqué, la capitulation idéologique de l'électrocratie face au Front National, au RN. Merci. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Pauline Perrenot pour son livre « Les médias contre la gauche » de Acrimed et aux éditions Agone, 15 euros. Alors Pauline, Zemmour entre en scène pour l'élection de 2022 et ça a été une, comme vous le dites dans l'ouvrage, ça a été une capitulation idéologique de l'éditocratie. C'est-à-dire que il y a eu un sommet dans le journalisme de dédiabolisation du RN et Zemmour, et de Zemmour en particulier. C'est-à-dire que depuis les années 80, on dédiabolise le Front National. C'est une constante, aux grandes dames de ceux qui luttent contre ce mouvement. Mais le premier quinquennat de Macron, ça a été un accélérateur de cette médiatisation constante. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Alors oui, il y a beaucoup de ressorts qui peuvent expliquer la banalisation par les médias dominants et les grands médias de l'extrême droite, de ses idées et de ses représentants. Donc c'est ce qu'on a essayé un peu de redétailler dans l'ouvrage. Et c'est vrai que le moment Zemmour, entre guillemets, est un parfait exemple, est un très bon symptôme en tout cas de la normalisation, parce que je pense qu'il faut même parler de normalisation aujourd'hui de l'extrême droite dans les médias. Donc c'est vrai que, alors, si on prend, je reviendrai peut-être sur les mécanismes ensuite, mais l'exemple de Zemmour, j'ai souvent l'habitude de dire que chez Acrimed, on est quand même rodé aux médias, à leur manière de fonctionner, aux éditocrates, etc. Mais on est quand même tombé de notre chaise, j'avoue, quand en septembre 2021, on a vu se mettre en place ce qu'il faut bien appeler un cirque médiatique total autour de Zemmour, et qui a duré quasiment 6 mois, puisque, enfin, même plus en réalité, puisque je rappelle quand même que l'ARCOM, en mars 2022, à quelques mois de l'élection présidentielle, épinglait 11 médias, dont certains du service public, pour surreprésentation de Zemmour en temps d'antenne et ou en temps de parole. Donc il y a eu une intoxication, une auto-intoxication des journalistes politiques, des rédactions autour de Zemmour. Il a été fabriqué comme le centre de gravité du débat public. Alors d'abord pendant 3 mois, alors qu'il n'était même pas candidat, il faut quand même le rappeler, parce que ça permet de quand même insister sur le fait que tout ça
était démesuré, voire délirant.
Voilà, mais surtout que c'était un choix éditorial, c'est-à-dire que en fait les rédactions auraient tout à fait pu attendre que Éric Zemmour déclare sa candidature pour en parler. Il y a un tas de candidats, je pense là tout de suite à Philippe Poutou, qui a déclaré sa candidature avant l'été, Nathalie Arthaud idem, et qui a dû attendre près de 4 mois ou 3 mois avant d'être sollicité pour sa première interview dans un grand média national, en l'occurrence France Info. Donc évidemment, voilà, il faut toujours insister sur le fait que ce sont des choix éditoriaux et que par conséquent il pourrait en être autrement. Et donc voilà, on revient sur cette séquence quand même proprement ahurissante. Hein, on faisait un parallèle avec Macron. Alors même si les commentaires différaient, puisque Macron, il y avait un engouement et une fascination de la totalité en fait des directions éditoriales, qui voyaient en lui le grand personnage, le grand réformateur, le grand candidat de l'ordre social, quoi, celui qui leur convenait parfaitement. Zemmour, il y avait un peu plus de réticence, etc. C'était pas la même tonalité dans le commentaire, mais en tout cas, d'un point de vue de la construction de l'information et d'un point de vue quantitatif, il a occupé l'espace médiatique. Il était interviewé dans les plus grandes émissions, mis en avant dans les créneaux d'information et d'interview les plus suivis, les matinales, etc., les grandes émissions politiques où on est seul face à un présentateur. Évidemment, ce sur quoi on insistait, c'est que, outre son omniprésence physique dans les médias, il était aussi omniprésent dans son absence, c'est-à-dire que même absent, les médias continuaient à parler de lui, et donc il était le sujet et le personnage dont les journalistes parlaient tout le temps, et donc il fallait, dès qu'on était un autre représentant politique, on était sommé de se positionner par rapport à Zemmour, de réagir par rapport à ce qu'avait dit Zemmour, de commenter le moindre crachat ou la moindre vidéo de Zemmour, etc. Donc c'est évidemment une manière d'en faire le centre de gravité. et on parle d'auto-intoxication parce que voilà, c'est la circulation circulaire, l'emballement, là encore une dépendance extrême au sondage, l'un alimentant l'autre, et au final qui a conduit à ce moment assez pathétique et par ailleurs particulièrement antidémocratique et particulièrement inquiétant du point de vue de la normalisation de l'extrême droite, puisque c'était ton point de départ. Quand on parle de capitulation idéologique de l'éditocratie, c'est parce qu'on a constaté en écoutant et en se tapant, si je peux me permettre, à peu près toutes ces interviews, que eh bien en fait les diagnostics entre guillemets qu'ils posaient sur la société n'étaient plus discutés par les commentateurs, ou par en tout cas une certaine partie d'entre eux, mais une large partie d'entre eux. Les diagnostics n'étaient plus interrogés et on voulait savoir les solutions qu'il avait à proposer. Il y a un extrait assez glaçant dans le livre qui est une transcription de l'introduction de Ruth Elkrief qu'il avait reçue dans une émission sur LCI, qui décrit vraiment cette capitulation-là. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va plus, on ne va plus amener de contradictoire à ce que, au constat qu'il fait, en fait, voilà, on va pas questionner, on va pas mettre en débat ça, mais on va chercher à savoir quelles solutions il propose pour tout un tas de choses absolument terrifiantes par ailleurs. Donc voilà, et ça c'est, comment dire, c'est un point important à noter, puisque dans la banalisation de l'extrême droite, c'est pas rien, c'est que ça fait 40 ans que justement sur les thématiques historiques qui fondent en tout cas historiquement le cœur du programme politique de l'extrême droite, et en l'occurrence du FN, que sont l'immigration, l'islam, l'insécurité, etc. En fait, non seulement ces thématiques-là, depuis de très nombreuses années, décennies, occupent le haut du
paysage médiatique,
de l'agenda médiatique, mais en plus, ces thématiques sont traitées selon des angles et selon une problématisation qui correspond à celle qu'en donne l'extrême droite. Voilà, donc quand on parle de périmètre du débat et de normalisation de ces idées, c'est quand même important à signaler. Et on signale tout aussi rapidement que, évidemment, là, on va dire que les chefferies éditoriales et les gens, les dirigeants de médias évoluent selon une trajectoire assez parallèle au champ politique et à sa situation, à la situation aussi du personnel politique vis-à-vis de ces thématiques, puisque évidemment ça fait aussi depuis les années 80 qu'il y a une droitisation du personnel politique et du champ politique en général sur ces questions qu'accompagne, on va dire, et que renforce, en tout cas que reproduise, voire que renforce à certains moments les grands médias.
Alors on va parler de celui qui dispose d'une vitrine médiatique pour l'extrême droite, c'est Vincent Bolloré, et Zemmour est sa créature.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est évidemment, quand on parle de normalisation de l'extrême droite, c'est un point, on peut pas faire abstraction de ça, et on évoque cette question dans un sous-chapitre qui s'appelle « Médias de la réaction » et « Réactionnaires dans les médias ». Oui. Donc c'est deux choses différentes, complémentaires, on va dire. « Médias de la réaction », effectivement, c'est l'Empire Bolloré qui, depuis quelques années, grossit, c'est une forme d'impunité, en tout cas permis par le laisser faire des pouvoirs publics sur la question de la concentration. Donc, ça vise pas que Bolloré d'ailleurs, c'est aussi le cas d'autres industriels capitalistes, mais en l'occurrence il y a quand même une spécificité sur cette question, puisque lui avance et représente le danger mortel de l'extrême droite, puisqu'il avance avec un projet éditorial qui n'est pas du tout caché, qui est un projet d'extrême droite et qui s'accompagne aussi d'un management brutal, ultra autoritaire, même si il n'en a pas l'apanage, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias.
Brutal.
C'est brutal, mais effectivement, lui, c'est extrême brutalité. Et évidemment, les médias qu'il dirige cherchent, sont en quête de rentabilité. Donc, il faut, il faut bien comprendre aussi comment l'imposition de cette ligne éditoriale d'extrême droite s'accompagne aussi d'un management et en tout cas d'une pratique vis-à-vis des salariés extrêmement autoritaire. Les deux vont ensemble, même si encore une fois, et il faut insister, il n'a pas l'apanage de la brutalité sur les salariés. Mais voilà, donc depuis en fait qu'il est dans le paysage et qu'il grignote les médias, eh bien éclosent des canaux de la haine, tout simplement. Donc c'est principalement CNews, la chaîne d'information continue, qui est vraiment un canal de la haine que à Acrimed on a décidé de plus tellement regarder, parce que pour nous l'affaire est close, quoi, entre guillemets, et que par ailleurs c'est quand même assez insoutenable de suivre les pseudo débats et l'information telle qu'elle est produite là-bas, mais bon, ça nous arrive quand même pour certains papiers de re-regarder. Et voilà, et donc c'est maintenant, ça a été Europe 1, ça a été Paris Match, c'est aujourd'hui le JDD, et comme d'habitude, et avant évidemment c'était iTélé qui est devenu CNews, mais c'était Canal, voilà. Et avec à chaque fois les mêmes conséquences, hein, c'est-à-dire des départs en général assez massifs des rédactions, et une restructuration de la rédaction à son image et à l'image de ses idées. Et donc, on voit quelques têtes d'affiche passer de média en média, circuler d'émission en émission, que sont les Morandini, les Pascal Pro, les Charlotte Dornella, Geoffroy Lejeune, qui était, bon, jusqu'à présent et pendant 7 ans à Valeurs Actuelles, mais qui a été nommé quand même directeur de la rédaction du JDD. Donc voilà, en gros, il poste à des positions de pouvoir ou à la tête d'émissions qui sont destinées à faire de l'audience, ses petits amis et ses petits soldats réactionnaires. Donc c'est vrai que là, on a affaire à des médias frontalement d'extrême droite, frontalement réactionnaires. Mais quand on disait donc médias de la réaction et réactionnaires dans les médias, c'était important aussi pour nous d'insister sur la responsabilité aussi des autres grands médias, et de quand même rappeler que le cordon sanitaire entre guillemets avec l'extrême droite n'existe plus en fait dans les grands médias depuis très très longtemps. Si on pense à Valeurs Actuelles et à Geoffroy Lejeune en l'occurrence, il faut quand même rappeler que visiblement tout le monde s'offusque et trouve ce personnage illégitime aujourd'hui, mais il a été rendu légitime. On a construit les chefferies éditoriales, ont construit sa respectabilité dans le champ journalistique, en l'invitant sur les plateaux, en discutant avec lui et en trouvant acceptable, en tout cas, de discuter avec un tel personnage. Il a fait des émissions tout à fait respectables, comme l'Instant M chez Sonia De Villers sur France Inter, qui n'est pas spécialement obligée d'inviter Valeurs Actuelles. Hein. Elle peut là aussi décider de qui elle invite et qui elle n'invite pas. Acrimed, par exemple, n'a jamais été invitée dans cette émission en 8 temps d'existence. Donc là encore, c'est des choix éditoriaux. On peut décider de le légitimer ou non. Et en l'occurrence, voilà, il a fait de très très nombreux médias. Il s'est construit. Il a beaucoup débattu dans la grande émission de Léa Salamé quand elle officiait sur iTélé, justement. Il est passé par plein de médias.
Faisons une pause sur Léa Salamé. J'adore le portrait. Je retrouve la page sur elle. Alors attendez, où est-ce qu'elle est, la page sur Léa Salamé? Alors Léa Salamé. Alors il faut rappeler que son portrait est page 254. J'avais donné le titre du portrait, c'est savoureux. Rien que ça. On va dire que j'ai mauvais esprit. J'assume. Voilà. Alors, son portrait. Le titre exact du portrait, c'est... Alors, 254. Léa Salamé, militante auto-intoxiquée. Alors, on rappelle que pendant l'affaire Carlos Ghosn, où la direction d'un média public lui paye le billet pour aller interviewer Carlos Ghosn au Liban, il y avait quelque chose comme 300 journalistes qui étaient menacés d'être virés de cette rédaction et qui faisaient grève pour garder leur poste. Donc ça donne vraiment une idée du paysage journalistique français, mais on ne peut plus catastrophique.
Ah, c'est ça. Donc il y avait une mobilisation des salariés de Radio France, pardon, à ce moment-là. Et ce qu'on disait aussi, ce qu'on rappelait dans le livre, c'est que évidemment les correspondants et les envoyés spéciaux auraient bien aimé eux aussi une telle débauche de moyens quand il s'agissait quelques mois plus tôt de couvrir les révoltes sociales qui avaient eu au Liban. Et en l'occurrence, on aurait bien aimé avoir une telle spectacularisation de l'information. À la hauteur de ce qu'a été cette grande interview arrachée à Carlos Ghosn en exclusivité par évidemment la grande intervieweuse du service public. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de Léa Salamé dans le livre, c'est pas parce qu'on a une animosité particulière.
Non, mais c'est un symptôme.
Voilà, c'est un bon symptôme. Et puis surtout, c'est quand même la journaliste qui concentre, qui a quasiment en fait qui a un certain monopole en fait de l'information politique sur le service public, puisqu'elle a une émission sur France 2 le samedi soir, qu'elle co-anime avec Christophe de Chavannes, mais c'est aussi elle qui fait des grandes interviews politiques dans des moments d'élection, par exemple, etc., etc. Donc elle n'est pas la seule, mais en l'occurrence, elle est très très présente et elle a... dispose d'un pouvoir éditorial, en plus évidemment d'être la co-animatrice de la matinale de France Inter, d'un pouvoir éditorial assez conséquent. Et donc c'est un bon symptôme aussi de la manière dont se structurent les rédactions. Donc on parle vraiment de vedettariat, quoi. Mmh. C'est des journalistes marques. D'ailleurs, ils ont des portraits d'eux dans le métro. Mmh. Il y a des campagnes de pub, des grands animateurs et des grandes animatrices de France Inter. Donc voilà, c'est des marques qui animent jusqu'à plus en pouvoir tout un tas d'émissions et qui font du mal, quoi. Bon, évidemment, ils font du mal parce que ils sont quand même connus pour leur parti pris.
On va pas parler passer les plats.
Pour passer les plats, voilà, avec ceux avec
les puissants.
Passer les plats avec les puissants et pour contrecarrer les responsables politiques et autres qui leur déplaisent. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comment dire, de faits d'armes de Léa Salamé sont rappelés dans le bouquin.
Dans cet excellent livre, dont je rappelle le titre, Les médias contre la gauche aux éditions Agone. Alors, on va revenir sur la dernière partie, sur tout ce qui est journalisme sur le quotidien des classes populaires, qui lui... Alors, ce que j'aime bien, c'est journaliste de crise ou crise de journalisme... Non, crise de journalisme sur le quotidien des classes populaires et des luttes sociales. Ça n'existe presque plus et vous avez montré comment même à l'AFP, le département qui s'occupait de ça a été démantelé et on a redistribué le travail à d'autres départements. Donc...
Oui, c'est le... Disons que c'est...
Le fait social, par exemple, on pense au travail fait par Mathieu Lepine sur les accidents du travail, n'existe quasiment plus dans les médias.
Voilà, alors c'est... Il y a plein de choses, mais en l'occurrence, si on part de Mathieu Lepine et des accidents du travail, parce que c'est ça qui documente. On montre dans le livre comment, alors à la fois certains des aspects les plus conflictuels du monde du travail auxquels sont confrontés en particulier les classes populaires, et là en l'occurrence jusqu'à la mort, parce qu'on parle d'accidents du travail mortels, mais aussi de toutes les préoccupations, en fait, juste des vies des classes populaires sont complètement zappées, passent sous les radars des médias. Alors ça s'explique, on peut l'expliquer par plein de facteurs qu'on donne dans le livre, mais voilà, les accidents du travail, c'est un très bon exemple. On avait fait un entretien avec Mathieu Lepine, justement, qui est donc ce professeur d'histoire géographie qui recense les accidents du travail à partir de certains articles de la presse quotidienne régionale et qui essaye de mettre la lumière et de politiser en fait cette question. On reprend quelques extraits de l'entretien qu'on avait fait avec lui dans le bouquin, et donc lui, voilà, il il critique à juste titre non seulement un sous-traitement de ces questions, mais aussi un mauvais traitement. Et là, il y a plusieurs exemples dont il parle. C'est à la fois une fédiversion des accidents du travail, alors que il reprend toujours cette formule qui apparaît beaucoup dans les titres de presse de la presse régionale, un ouvrier est mort, c'est-à-dire qu'on oublie tout le contexte, on dépolitise en fait cette information, puisque c'est un grand malheur sans cause, quoi. Voilà, il y a pas
comme le cancer de l'amiante.
Voilà, comme beaucoup de questions sociales, comme évidemment aussi les naufrages en Méditerranée, etc. Grand malheur sans cause. Donc en fait, quand on parle de drame, quand on parle de un ouvrier est mort, quand on fait diversité de la sorte, quand on n'en fait pas, quand on dépolitise, c'est évidemment là en l'occurrence complètement passé sous le tapis les responsabilités patronales, les politiques patronales qui créent en fait l'insécurité des salariés, etc., etc. Donc on parle de ça, et puis bon, le journalisme de classe, j'ai envie de dire avec ironie, c'est l'ARCOM qui en parle,
oui.
qui en parle très bien.
Oui. Puisque, c'est l'ex-CSA. Hein,
voilà, l'ex-CSA. Mais parce que chaque année, en fait, il met un peu des chiffres sur la représentation socio-professionnelle dans l'audiovisuel. Et donc là, c'est quand même assez éloquent. Donc je rappelle quand même ce passage que je vais lire parce que je ne le connais pas de tête. En 2021, tout programme confondu, donc c'est-à-dire fiction, information, documentaire, divertissement, les catégories socio-professionnelles supérieures ont représenté 75% des personnes indexées à la télévision et à la radio, alors qu'elles ne constituent que 28% de la population française. Pire, les cadres, professions libérales et chefs d'entreprise, qui ne pèsent que 10% de la population, ont été représentés à hauteur de 65%. Et dans les programmes d'information, le déséquilibre est plus flagrant encore, puisque les classes dominantes constituent 90% des personnes mentionnées ou s'exprimant. Et donc on continuait dans le bouquin en disant que mécaniquement, les classes populaires étaient évidemment sous-représentées et n'apparaissaient pas à l'écran, et dans les radios, ne pouvaient pas s'exprimer. Et c'était une manière pour nous de dire... de montrer en fait à quel point en l'occurrence la télé mais aussi la radio déforme en fait le réel tout en prétendant selon le grand mythe du journalisme passer le miroir et rendre compte de ce qui se passerait dans la société. Et donc là on voit que c'est une image particulièrement déformée de la société qui nous est proposée, et ça a accumulé, et c'était un bon exemple avec évidemment les gilets jaunes,
oui.
Où là pour le coup un certain nombre de personnes qui n'étaient et de travailleurs travailleuses qui n'étaient pas du tout habitués des plateaux ont fait effraction sur les plateaux de télévision. Ça s'est vu, et aussi j'ai envie de dire on voit aussi derrière comment ils ont été reçus,
c'est
et comment
carnage.
Ils ont traité. Et donc là on revient aussi effectivement sur ce qu'on peut bien appeler un carnage et une vague de mépris de classe et de haine de classe qui s'est vraiment déchaînée pendant des mois et des mois dans la bouche de la plupart des commentateurs de ce pays, d'illustres commentateurs de France Inter comme Thomas Legrand jusqu'à France 24, enfin partout quoi. Donc ça nous semblait quand même important, c'était vraiment important de revenir sur ce moment parce que évidemment il y a des moments où les médias quand même prennent la forme en tout cas d'un rouleau compresseur, et là en termes de haine de classe ça a été particulièrement frappant, et c'est aussi le moment où sur les violences policières,
oui.
ça a été à peu près le même carnage, puisqu'il aura
tout
fallu attendre 2 mois pour que le sujet perce.
Et grâce à David
Dufresne. En partie.
Alors à Publico on avait diffusé son film Un pays qui se tient sage, voilà. Alors donc, d'où le chapitre des médias de maintien de l'ordre. Et on va le retrouver dans Acrimed, qui sort dans quelques jours.
Avec une belle une de Fred Sochard.
Alors, pour conclure cette émission, on va dire sur le plan économique. Mission impossible. Qu'est-ce qui est une mission impossible sur le plan économique, à la télévision comme à la radio? Si tu te rappelles ce que vous avez marqué.
C'est une colle sur le propre livre d'Acrimène. Bon, y a plein de choses qui sont impossibles, mais en l'occurrence...
Mission impossible, c'est citer le nom d'un économiste hétérodoxe.
Ah voilà, c'est ça, tout à fait.
Et ne serait-ce qu'un, le plus célèbre, vu la fin qu'il a eue, le pauvre, c'est Bernard Maris.
Oui, bah après son assassinat, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il avait fallu attendre plusieurs années pour que France Inter et la direction de France Inter daignent opposer un autre chroniqueur à l'éternel, le célèbre, l'illustre Dominique Seux, qui continue d'avoir évidemment son créneau seul à peu près tous les matins, et le seul moment où il n'est pas seul, c'est les vendredis où il débat avec Thomas Piketty. Donc voilà, ça c'est une mission impossible. Mais il y a plein de missions impossibles sur le terrain du débat entre mille guillemets, puisque c'est pas tellement un débat, mais en tout cas sur le terrain des politiques sociales et économiques, il y a plein de trucs qui ne font pas partie du périmètre acceptable tel que le balisent les grands intervieweurs. Donc on revient sur un certain nombre d'exemples, mais un bon exemple, c'est aussi la dette, quoi.
Le discours sur la dette.
Post-Covid, voilà, tous les discours sur la dette n'étaient pas acceptables.
Tout à fait. Alors, tous ces aspects que nous avons développés depuis une heure à peu près montrent à quel point il y a un front médiatique contre la gauche, et que le livre « Les médias contre la gauche » est un livre essentiel. Parce que tant qu'on ne l'a pas lu, moi j'en fais le constat tous les jours en pestant, en se disant « Mais il y a des grèves par-ci par-là, je n'en ai pas les échos. » Mais c'est tellement bien expliqué qu'on comprend. Et on comprend aussi le rôle de médias comme Radio Libertaire, qui sont des médias du tiers secteur. Et là, je tiens à faire une minute d'autopromo, parce que dans les solutions qui sont élaborées pour changer les médias, vous dites qu'il faudrait s'appuyer sur les médias du tiers secteur, parce que si un autre monde est possible, d'autres médias le sont aussi. Donc les médias comme nous, nous sommes non seulement enchantés de t'avoir reçu, Pauline, nous sommes émus et honorés de recevoir Acrimède pour la quatrième fois, parce que ça fait quatre fois qu'on... Sachant qu'il y a des médias dominants qui ne recevront jamais Acrimède, et on se doute bien pourquoi. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont précédé, parce que je suis arrivée à Radio Libertaire en 2015. Mais Radio Libertaire a été fabriquée et conçue par des militants de la Fédération anarchiste avant cela, bien avant. Et c'est grâce à eux que nous avons Radio Libertaire. Donc je tiens à les remercier, à leur rendre hommage, et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui font de cette radio un média du tiers secteur et un média d'opposition.
Bah oui, bravo à vous, c'est évidemment très important que ces espaces existent et qui continuent d'exister, même si en général on le sait c'est aussi compliqué, ça repose sur des forces militantes, il y a du bénévolat, etc. Mais c'est évidemment des espaces d'alternatives hyper importants, où justement quand on parle d'information et de médias, on voit qu'il y a d'autres agendas qui sont possibles, d'autres interlocuteurs aussi, enfin en tout cas des personnes qu'on n'entendra jamais dans les grands médias d'information et d'autres angles aussi pour traiter de sujets qui pourront être traités par ailleurs par les grands médias. Donc ce sont des espaces de respiration hyper importants, et comme on a souvent l'habitude de le dire, c'est le vrai visage du pluralisme, en fait il est là. Il est dans ces médias indépendants, et c'est vrai que tu le rappelais, bon, ça fait partie des propositions que porte Acrimède. En tout cas, nous on estime que parmi les transformations qui devraient avoir lieu, c'est évidemment quand on pense aux aides à la presse, par exemple, aux aides publiques à la presse, et au fait que ces aides à la presse, ces aides publiques à la presse sont captées par les
10 oligarques,
les mêmes dont on parlait, par les milliardaires en l'occurrence. Eh bien nous, on estime que Si on pense à, en fait, à une grande refonte d'un service public de l'information et de la culture, on pense que ce grand service public pourrait s'adosser à deux formes de propriété différentes, à la fois un service public tel qu'il existe aujourd'hui, France Télévisions, Radio France, dont on peut discuter des transformations aussi, etc., mais qu'il faudrait nettement renforcer, puisque on peut pas non plus ne pas mentionner les décennies d'attaques gouvernementales et de saignées budgétaires dont souffre l'audiovisuel public. Je rappelle que sur 10 ans, quand même, France Télévisions, par exemple, a perdu plus de 1200, je crois, équivalents temps plein, si c'est pas 1400. Donc c'est juste énorme, beaucoup d'externalisation, enfin, la production de l'information est quand même assez minée, le vœu d'Etaria dont on parlait tout à l'heure, etc. Mais en tout cas, donc voilà, renforcer ce service public tel qu'il existe aujourd'hui, je ne parle même pas de la redevance qui n'existe plus. Et l'autre forme de propriété, ce serait des médias du tiers secteur, donc d'information générale et auxquels les aides à la presse pourraient précisément être réservées, et qu'en tout cas que ces aides ne bénéficient plus aux grands médias capitalistiques, enfin tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, aux médias privés, que les aides à la presse n'aillent plus à Bernard Arnault, à François Pinault, etc. Qui par ailleurs sont gavés de publicité, mais soient réservés à ces médias indépendants. C'est une perspective de transformation parmi d'autres, mais c'est toujours important de le remettre au goût du jour, en effet.
Merci Pauline. Alors je rappelle le site internet de Acrimed, c'est acrimed.org.
C'est ça.
Je rappelle le titre du magazine Média Critique. On peut le trouver à Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. On peut aussi trouver les médias contre la gauche aux éditions Agone, 15 euros, sur la table des nouveautés, parce que j'ai vérifié, il y est bien. Donc on peut se le procurer et le lire et le garder ou le faire tourner, parce que c'est un livre essentiel, Les médias contre la gauche de Pauline Perronneau, aux éditions Agone. Pauline, merci infiniment.
Bah, merci à toi.
Je remercie Ken Dong qui, exceptionnellement, a fait la technique et qui s'en est tiré comme un chef. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais déchirement, devant le juge, tu juges, c'est qui mon jugé, t'as le gamin ribin. J'ai des blousis chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve.